Seigneur, merci pour ta parole qui a traversé les siècles. Merci Seigneur parce qu'elle est notre boussole pour savoir où aller. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre ta parole et aussi à mieux la diffuser pour que d'autres puissent trouver ce plaisir de t'avoir dans leur vie. Amen.
Amen.
Ça sera une prédication un peu spéciale. Malheureusement, Denis l'a déjà entendu, Annie aussi. C'est celle des vocations qui nous a été demandée d'être faite par l'UNEPREF. C'était le 19 novembre, donc j'étais au Sarret. Et puis du coup, on refait la même prédication qu'au Sarret. On m'a demandé de faire des témoignages. Alors voilà, si jamais pendant la prédication je parle un peu de vous, désolé, voilà, soyez pas surpris. C'est juste pour rendre la prédication un peu plus pratique. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est que de bonnes paroles. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va lire en Éphésiens, au chapitre 4, versets 1 à 16. Éphésiens 4, versets 1 à 16. C'est bon, ça marche? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, je répète, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes et aux femmes. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous allons aujourd'hui parler de la vocation que Dieu donne à chacun de ses disciples. À chacun de ses disciples. Je vais être un peu cru, mais Dieu n'invite pas les gens à être des moutons éternellement. Que nous venions nous convertir et que nous soyons un mouton pendant un an, soit, je le conçois. Mais au bout d'un moment, nous devons saisir une vocation et faire partie du corps du Christ et ne faire qu'un. Nous ne sommes pas appelés juste à consommer, mais à faire partie du corps du Christ. Le début de ce chapitre nous parle de marcher d'une manière digne de cette vocation que nous avons reçue. Et pour être digne de cette vocation, il nous faut l'exercer dans l'unité. Et Paul dresse la liste de 7 composantes de l'unité, toutes centrées sur la Trinité. Commençons. Un seul corps. Il n'y a qu'un seul corps. Devant Dieu, il n'existe pas plusieurs églises à tiers, mais une seule église. D'ailleurs, pas une seule église en France, pas une seule église dans le monde, pas plusieurs églises, mais une seule église. Excusez-moi, je m'embrouille. la vocation que Dieu nous donne, elle n'est pas pour l'exercer que pour l'Église de Thiers, mais pour son Église avec un grand T. Par exemple, si Dieu vous a donné ce don de l'évangélisation, cette vocation, vous ne devez pas l'utiliser pour vider d'autres églises et remplir celles de Thiers. Ça, c'est pas possible. Quand Dieu donne une vocation à quelqu'un, c'est pour l'église avec un grand E, et c'est pas pour piller d'autres églises, c'est pas pour aller contre d'autres églises, c'est pas pour prêcher contre les autres églises, mais c'est pour prêcher pour l'église de Jésus-Christ. Dieu ne regarde pas à notre étiquette ecclésiastique, mais il regarde à notre cœur. Il n'existe qu'un seul disciple de Jésus-Christ. Un seul corps. Un seul esprit. Cet esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui demeure de l'Église. S'il y a un seul esprit, cela veut dire qu'il n'est pas possible que deux personnes reçoivent deux choses qui s'opposent. Ah, ça devient compliqué. Si une personne vient me voir et me dit « Dieu m'a dit que... » Et puis que moi j'ai pas reçu la même chose, c'est qu'il y a un problème. Nous devons nous mettre ensemble, prier et savoir ce que l'Esprit dit vraiment. Quand on est au conseil et qu'on apporte quelque chose, eh bien on prie pour que l'Esprit nous donne le discernement de savoir ce que nous devons faire ou pas. En tant qu'évangéliste, vous savez que je propose toujours des tonnes d'idées. Et puis après, au conseil d'avoir le discernement de savoir ce qui vient du Saint-Esprit ou pas, et moi j'accepte de ne pas tout faire, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. C'est pas parce que j'ai reçu quelque chose que tout vient forcément du Saint-Esprit. Quelquefois, nous voyons ce que nous voulons voir. Voilà, je connaissais une personne, elle avait envie de quelque chose, et puis elle voyait des signes toujours pour ça. Toujours elle voyait les signes par rapport à ce qu'elle voulait. Et puis quand les gens lui disent autre chose, « Ah ben non, 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 Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Oui, mais il n'y a qu'un seul esprit. Ce n'est pas possible que Dieu dise quelque chose à l'un et l'opposé à l'autre. Il n'y a qu'un seul esprit. Écoutons le Saint-Esprit pour qu'il nous guide sur ce chemin que Dieu veut pour notre Église et chacun de nous. Il est important de garder l'unité au niveau du Saint-Esprit, et de prier pour que nous puissions rester unis dans cette marche vers l'Esprit et que nous ayons l'humilité quelquefois de renoncer à quelque chose que nous avions pensé recevoir et qui en fait ne venait pas du Saint-Esprit. Voilà. Et ça, c'est pas une petite chose. Hein. J'y passe rapidement, mais c'est pas une simple chose. Hein. Souvent, je vois des gens qui me disent « Oui, Dieu m'a dit ça », et puis je dis « Écoute, moi, c'est bizarre, j'ai vraiment reçu autre chose. » Après, moi, je laisse faire, parce que je ne détiens pas à Dieu, mais je pense qu'il faut vraiment prier, et c'est pour ça que la Bible nous dit « Prier sans cesse ». Passons à la troisième unité. Une seule espérance. Nous partageons tous la même espérance en ce qui concerne notre avenir avec Jésus-Christ. Que ce soit l'Église Assemblée de Dieu en bas, que ce soit l'Église catholique, que ce soit nous, on partage la même espérance, c'est d'aller au ciel avec Jésus-Christ. Quatrième, un seul Seigneur. Le Christ est la tête de l'Église universelle. Le chef de l'Église de Thiers, ça fait bon de le rappeler, ce n'est ni son pasteur, ni son évangéliste, ni son président, mais Christ. D'accord, Patrick. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'au conseil, on prie. On est là pour discerner ce que le Seigneur veut pour son Église. Le conseil presbytéral de l'Église Thiers et Sarrère n'est pas la tête. Elle est peut-être le cou. On a le cou, c'est vrai. Hein. Il y a la tête après le cou. Mais elle n'est pas la tête. Et elle a cette difficulté vraiment de pouvoir écouter ce que dit le Seigneur et le retransmettre au reste du corps que vous êtes. Voilà. La tête, c'est Jésus-Christ. Je ne sais plus à quel numéro je suis, c'est le cinquième. Une seule foi. Cette foi nous est donnée de Dieu à tous. Et ça, c'est important. Hein. Elle n'est pas réservée à certains, mais destinée à tous. Dit autrement, cette foi ne peut pas être utilisée pour se glorifier ou s'élever par rapport aux autres. Des fois, on me dit, oui, mais toi, t'es pasteur, t'as une foi qui est plus grande. Ben non. La foi, elle nous est donnée. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas les petites fois, les grandes fois, les petits chrétiens, les grands chrétiens, les moyens chrétiens. Non. Il n'y a que des chrétiens. Et il n'y a qu'une seule foi. Il faut se mettre ça dans la tête. Il n'y a qu'une seule foi. Tu as peut-être une vocation que tout le monde voit, mais ta foi, elle voit autant que celle de la personne qu'on ne voit pas beaucoup. Qu'une seule foi. Et elle nous est donnée par Jésus-Christ. Continuons dans les choses qui peuvent fâcher. Un seul baptême. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Nous croyons qu'il y a un seul baptême, et ce, quelle que soit l'église de laquelle nous venons. Et nous l'avons reçu. Avant, il y avait un peu une petite guéguerre. Je me souviens, quand j'étais petit, si tu n'as pas été baptisé par immersion, ton baptême vaut rien. Tu étais enfant, ça vaut rien du tout. Tu as été ci, ça vaut rien. Ah ben, tu n'as pas été plongé dans le Jourdain. C'était le Jourdain. À un moment donné, les gens, ils partaient, ils allaient se faire baptiser au Jourdain en Israël. Alors là, ça, c'était le beau baptême. Non, je suis désolé, il n'y a qu'un seul baptême. Et le baptême ne sauve pas en plus. Hein. Parce que quelquefois, on se bat pour le baptême, mais il ne sauve pas. C'est Christ qui nous sauve. Et il n'y a qu'un seul baptême. Donc si je ne suis pas d'accord avec ça, je ne peux pas exercer ma vocation. Ce n'est pas possible. Parce que je suis dans le jugement. Et ça ne va pas. Qu'un seul baptême. Et on termine par un seul Père de tous. Une fois de plus, Dieu n'est pas le Père uniquement de l'Église réformée de Thiers les Sarrais, mais aussi celle de l'Assemblée de Dieu et de l'Église catholique de Thiers. Nous n'avons pas la... comment on appelle ça ?
L'exclusivité
de Dieu. Et si nous croyons ça, nous sommes dans l'erreur et notre Église diminuera. Non. Il n'y a qu'un seul Père. Et nous sommes là pour travailler main dans la main pour l'œuvre de Jésus-Christ. Si j'insiste sur cette unité avant de parler de la vocation, c'est que nous ne pouvons pas exercer notre vocation tant que nous n'avons pas compris l'importance de l'unité du corps du Christ. Dieu ne nous appelle pas en premier, je dis bien en premier, à servir l'église locale de Thiers et Sarrets, mais son église avec un grand E. Bien sûr, en second lieu, il nous appelle à nous investir dans une église locale et pas être des papillons qui vont de droite à gauche. Mais en premier, c'est l'église de Jésus-Christ. En deuxième, c'est l'église locale de Thiers-les-Sarrets. Tout en conservant l'unité avec les autres églises. Si je lutte contre l'Assemblée de Dieu ou contre l'église catholique, j'ai rien compris. Alors bien sûr, c'est pas pour rien qu'il y a trois églises. Mais c'est tellement plus facile de voir la paille dans l'œil de mon voisin que la poutre qui est en moi. Soyons dans l'unité. Et nous le sommes, si je ne me trompe pas, à Thiers, nous le sommes. Nous essayons de travailler avec toutes les églises pour l'œuvre du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. La première chose à noter dans ce que je viens de dire, c'est chacun de nous, je l'ai insisté d'ailleurs qu'on a lu, il n'y a personne ici présente qui n'a pas reçu de don de Dieu. Ok ? Ok. En effet, Dieu a fait des dons aux hommes et non à certains hommes ou femmes. Dans l'Église, il y a deux pièges. Le premier, on le connaît, c'est quoi ? C'est l'orgueil. Ça, on le connaît, l'orgueil. Mais il y en a un deuxième qu'on connaît un peu moins et qui est aussi dangereux. C'est la fausse modestie. Ah ben non, moi j'ai pas de don. Ah ben non, moi j'ai rien. Ah ben non, moi j'ai surtout pas ce don-là. Ça, c'est un piège. Parce que Dieu a donné un don à chacun de nous. Et nous ne sommes pas là pour dénigrer ce que Dieu a mis en nous. Alors bien sûr, il faut être ni orgueilleux, c'est-à-dire se vanter toujours de notre don, ni avoir une fausse modestie. Une fois de plus, c'est impossible, mais bon, nous tendons vers ça quand même. D'ailleurs, on dit souvent l'humilité est la seule chose que dès qu'on dit qu'on l'a, on ne l'a plus. Donc c'est vrai que ça va être dur à être humble. Mais bon, allons vers. Nous avons tous reçu des dons et donc une vocation de Dieu à les mettre au service des autres. En effet, le but des dons, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Les dons que Dieu nous a donnés ont pour objectif de faire progresser l'Église et de l'enseigner. Soyons bien conscients que nous sommes tous, sans exception, le corps de l'Église de Thiers, les Sarrets, et Christ en est la tête. Voilà. C'est tous ensemble qu'on va y arriver à cet enseignement. C'est tous ensemble. Je dirais même que le mouton qui vient de débarquer dans l'église, eh bien, il reçoit très rapidement les dons que le Seigneur veut lui donner. Et on va les décrire un peu après, ces vocations. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Première chose, je leur ai dit, hein, Dieu a distribué des dons à chacun d'entre nous. Mais pas que. Pas que. Il nous donne son assistance. Le mode d'emploi. L'assistance. Le service après-vente. Il n'a pas juste dit, tiens, je te donne un don et débrouille-toi avec. Pour tous ceux qui ont cette vocation et qui en sont conscients, vous le savez, eh bien, Dieu, il est là auprès de nous. Service après-vente, l'assistance, il est là. Il ne fait pas que de donner, il est là. Il est là pour faire le lien avec les autres. Il est là et nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas saisir ce cadeau et dire, bah, tiens, comme un bon Français, je ne lis pas le mode d'emploi, je fais comme je veux. Voilà, eh bien non. Maintenant, il y a un mode d'emploi avec ce don, il est dans un bon objectif et nous devons le respecter. Et donc dans ce but, c'est celui de s'édifier dans la charité. Le but n'est pas seulement de progresser, mais de le faire dans l'amour de Dieu. Si l'Église progresse et que l'amour n'est pas là, on est à côté de la plaque. Si l'amour est là et puis qu'on ne progresse pas non plus, ben ça ne va pas non plus. Les deux doivent être au rendez-vous. On doit s'édifier dans l'amour. Voilà, maintenant que j'ai fait une grande introduction, qui sera la plus grande partie de la prédication, on en vient aux vocations. Le texte en cite 5. Alors, je suis théologien de l'Église réformée, protestante réformée évangélique, et nous appartenons à une union d'Églises. Donc, je ne suis pas là pour prêcher ce que je crois, mais prêcher ce qui m'a été dit de prêcher. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà. Chez les chrétiens, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et pour l'UNITREF, les apôtres et les prophètes ont cessé. Alors, ne hurlons pas tout de suite. J'ai téléphoné à mon professeur de théologie pratique et je lui ai dit, ben voilà, il faut que je fasse une prédication, est-ce que tu peux un peu m'éclairer là-dessus? Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord et du coup j'ai besoin de savoir ce que je dois dire pour le culte. Et c'est profond ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais les apôtres, donc c'est ceux qui étaient autour de Jésus-Christ, c'est ceux qui ont mis en place l'Église en tant que telle. Et cela, il n'y en aura plus du nouveau. Mais il peut y avoir des apôtres autrement, dans nos églises, etc. Mais ce n'est pas les apôtres qu'on parle là. Et dit, les prophètes, donc c'est ceux qui annoncent la volonté de Dieu, et la parole qui a été annoncée, c'est Jésus-Christ mort pour nos péchés. Et ça, on ne peut pas le réinventer. C'est pas possible. Donc, les prophètes, il n'en existe plus dans le sens que le message de l'Évangile a été annoncé, il n'y en a pas un deuxième. Après, si on parle de paroles de connaissance, on peut mettre ça sur autre chose. Mais pas sur les prophètes, comme on voit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui apportent vraiment le plan du salut. Le plan du salut, il a été donné une fois pour toutes, il ne va pas changer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne dans toute sa gloire. Et faisons vraiment attention, parce que j'ai vu dans certains milieux, le prophète devient la liseuse de bonne aventure. Voilà. Il y en a qui a un don de discernement et de parole de sagesse, et des gens viennent vers lui et disent, bah, écoute, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans un an ou deux. Ben non, ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Quelquefois, oui, il y a des paroles qu'on dit de prophétie, qui sont des choses qui vont venir plus tard, mais elles ne se commandent pas. Elles ne se commandent pas, elles se disent, elles sont données du Seigneur et elles sont transmises. Elles ne sont pas commandées pour telle et telle personne. Voilà. Ça, ce n'est pas bon. On confond les choses païennes et chrétiennes, ça fait du. Voilà. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, je vais les mettre de côté, ces deux-là, et on va s'intéresser aux trois autres qui sont quand même pas mal. Mais là aussi, il va falloir qu'on fasse un travail, parce que pour nous réformer, on a été tellement conditionnés que quand on parle d'évangéliste, pasteur et docteur, allez, c'est celui qui est dans l'église qu'on paye. Voilà. Et on a du mal à se dire, ben non, cette vocation, elle peut être donnée à d'autres. Et pourtant, elle est donnée à d'autres. Et je vais vous donner des exemples. Donc, je retrouve où j'en suis. L'évangéliste, c'est celui qui a reçu la vocation de parler du Seigneur autour de lui. Je vais citer des personnes, excusez-moi. Je pense à Denis Sauvagnin, qui dans son travail ne peut pas s'empêcher de parler du Seigneur. Il est jardinier et il parle du Seigneur. Puis même en dehors de son travail, il parle du Seigneur autour de lui. Il a cette vocation d'évangélisation, d'évangéliste. Je pense à Alain, qui à travers son site internet aussi évangélise. Je pense à Marc Palier à travers Facebook. Je pense à Eric, alors j'ai oublié son nom de famille.
Latière,
voilà. Qui est dans la rue, il aborde les gens et puis il leur parle du Seigneur. Voilà. Mais c'est un seul corps. Dans une église, on n'est pas appelé à avoir sa vocation puis aller dans son coin. On est coordonnés ensemble pour l'annonce de Jésus-Christ. Coordonnés ensemble. Ce n'est pas chacun pour soi, c'est ensemble, on est un groupe, on parle ensemble et on va dans une même direction. Pour l'édification aussi de la communauté. Et c'est pour ça que quand on fait des temps d'évangélisation, la communauté vient, les évangélistes sont là, et ensemble on va apporter l'évangélisation. Et ces évangélistes vont être à côté des gens qui n'ont pas l'habitude pour les aider à parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais le but, c'est pas d'être tout seul. Non, ces évangélistes, ils vont exhorter les autres membres à parler de Jésus-Christ autour d'eux. Et c'est pour ça que Dieu a donné cette vocation à Alain, à Denis, à moi-même, à Marc Palier, à bien d'autres que j'ai dû oublier, excusez-moi, hein, j'oublierai forcément. Mais voilà, nous sommes un corps. Et je dirais presque que l'évangélisation, c'est un bras du corps. Voilà. Et coordonnées, toutes ces vocations, ils sont coordonnés ensemble. Et ils reçoivent de la tête de Jésus, du coup, qui est le conseil presbytéral, les choses qu'il faut faire. Un évangéliste, eh ben, il va rendre compte au conseil presbytéral. Une fois de plus, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà. On continue. Un autre bras, c'est celui du pasteur. Alors, qu'est-ce qu'un pasteur? Bibliquement, le pasteur, c'est celui qui prend soin d'eux. C'est pas celui qui prêche tous les dimanches. C'est celui qui prend soin d'eux. Et là, moi, quand je pense à ça, j'ai une bonne branche dans notre église qui se coordonne bien. Il y a Daniel, Sophie, Daniel qui fait toutes ses visites avec Alain, et puis après le dimanche chez Sophie il y a un repas. Parce que on veut prendre soin de tous ces gens qui sont seuls. Et vous voyez, tout est coordonné. Et moi aussi je fais mes visites. Enfin, c'est pas chacun pour soi, c'est chacun a reçu des vocations et on essaye de se coordonner, de faire ce deuxième bras avec le coup du conseil. Voilà. On apporte au conseil, voilà, moi j'ai ça dans mon cœur, qu'est-ce que je peux faire? Prendre soin d'eux. Je pense aussi à Christine, qui prend des nouvelles de tout le monde, et moi si j'ai besoin d'avoir des nouvelles de quelqu'un, je demande à Christine. Voilà, Christine qui nous envoie des messages à tout le monde. Et tu as peut-être aussi cette vocation de prendre soin des autres, de pasteur. Alors peut-être ça vous sonne fou dans la tête, que pasteur, vous pensez à celui qui est là, voilà. Mais non, c'est pas ça, c'est celui qui prend soin d'eux. Sortons de tout ça. Et nous avons besoin de pasteurs, de gens qui prennent soin les uns pour les autres. S'il n'y avait qu'un seul pasteur dans l'église, mais ça serait nul, parce que c'est pas assez. Il y a plein de petits groupes maintenant qui sont, mais qui prennent soin les uns des autres. Et bien ça, c'est excellent. Voilà. Mais toujours bien se coordonner au cou et à Jésus-Christ. Le troisième, c'est le docteur. Alors moi, quand je pense à docteur Attière, évidemment, je pense à Mathias, avec toutes ses connaissances, tout, voilà, ça c'est vrai que c'est... Mathias, si on a une question à poser au niveau théologique, on va le voir. Mais il n'y a pas que ça. L'enseignement, il y a la prédication, Patrick est dedans, Alain, et bien d'autres. La prédication, le catéchisme. Le catéchisme aussi, c'est un enseignement aux enfants, et je pense qu'il ne faut pas le négliger. C'est aussi... dans cette vocation d'enseigner. Chacun de nous, nous avons reçu une vocation. À vous de la chercher, de la faire partager au conseil, pour vous remettre dans le groupe et ne faire qu'un seul corps, dans la charité, dans l'amour. Il n'y a pas un qui doit être plus visible que les autres, mais c'est ce corps tout entier. Et c'est là vraiment qu'on aura réussi. Il n'y a pas quelques-uns qui méritent une vocation et les autres qui ne la méritent pas. Alors j'ai oublié aussi de vous faire la différence entre ministère et don. Il y a des gens qui ont reçu des ministères, comme moi-même. J'ai le ministère ici d'évangéliste, je suis payé et finalement toute ma vie, je la consacre à ça. Voilà, ça c'est un ministère. Et on a le don, ça c'est ce que la plupart des gens reçoivent. Enfin, c'est quelque chose qu'on est invité à mettre à la disposition de l'Église pour l'épanouissement dans la charité. Voilà. S'il y a des personnes qui ne ressentent pas l'amour dans notre Église, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Et qu'on doit se poser des questions. Alors, quelquefois, on pense ne pas recevoir de l'amour alors qu'on le reçoit. Ça c'est différent. Voilà. Mais si réellement il y a des personnes qui se sentent exclues, signalez-vous à moi, et puis on enlèvera les choses qui dysfonctionnent. Voilà. Parce que si vraiment on a cette vocation, c'est pas possible qu'il y ait des laissés pour compte. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions ? Je suis cette journée de la vocation, est-ce qu'il y a des questions ? Soyons fous, n'hésitez pas.
Et contrôle dimanche.
Oui.
Est-ce que le pasteur Patrick Martorano, et puis moi je le dis en toute humilité, il dit on est inarrêtable. Voilà, quand on avec le Seigneur, et pour qu'on. Voilà. J'ai cette parole, inarrêtable.
Alors c'est pas une question, c'est un complément.
Ouais, ben.
Ok,
ouais.
Merci. Non, mais merci.
Une question.
Merci Denis pour ce complément. C'est vrai, avec Dieu on est inarrêtable. Ouais, y a-t-il des commentaires ou des questions?
Et les prophètes alors, puisque l'apôtre Paul dit bien aspirer aux dons, surtout celui de prophétie. Et tu as dit tout à l'heure que dans l'UNEPREF, il n'y en a plus, c'est fini, depuis Jésus, il n'y a plus de prophètes. Alors comment?
Alors, le prophète, comme je dis, qui annonce la parole ultime, qui est le message du salut. Alors par contre, c'est vrai que lui, il dit oui, il peut y avoir des gens qui ont des paroles de connaissance. À ce moment-là, c'est différent. Alors c'est vrai que je ne suis pas hyper à l'aise là-dessus, parce que moi,
c'est une question de terme alors.
Oui, je pense.
Parce que, pour moi, le prophète, c'est quand même celui qui a un message de la part de Dieu à donner aux hommes. Alors, il y en a ou il n'y en a plus, c'est ça. Aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'il y a des gens qui ont des messages à transmettre de la part de
Dieu ? Moi, en tant que Denis Schneller, je pense que oui. Mais je pense que l'UNEPREF aussi n'était pas à l'aise. Il dit oui, mais alors, ça dépend du terme. Je crois qu'ils s'embrouillent tous.
Oui.
Je pense qu'à un moment donné, l'Église réformée, elle s'était un peu endormie, puis tout ça, ça n'existait pas. Puis du coup, on a essayé de justifier le fait que Dieu ne parlait plus vraiment. Puis d'un coup, il y a eu des réveils, et puis voilà, le Saint-Esprit a commencé à parler à plein de personnes, et on a eu toutes ces paroles qui sont arrivées. Et ce qu'on appelle le cessationnisme, voilà, je les trouve un peu bêtes. Mais c'est vrai que pendant plus de 100 ans, on était endormis. Et il n'y avait plus quoi. Ça dépend, parce qu'il y a Félix Neff, il y en a plein d'autres qui me diront, Alain, il ne faut pas que je dise trop de bêtises, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je pense hein, que, et puis la majorité d'ici, hein, Daniel, je crois que tu es d'accord avec moi, que Dieu parle encore à travers certaines personnes.
Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans l'Église réformée, les puffes, il y a des prophètes qui sont reconnus en tant que prophètes.
Oui, mais pas dans l'UNEPREF.
Oui, mais en fait, dans l'Église, on a Pierre-Daniel Martin qui va dans toutes les églises et qui est prophète.
Non, mais pas dans l'UNEPREF, hein, c'est ça.
Ah. Ou l'Église.
Non, mais excusez-moi, je vous suis dit. Mais voilà, on est tous d'accord, même Alain. Hein. Alain ?
Oui. Oui, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais ça découpe l'enregistrement, c'est bien.
Non, mais comment dire, ça demande des développements qui ne sont pas dans le cadre du culte, disons.
Ok. On en reviendra plus tard. Pourquoi pas une prédication dessus, mais je ne la ferai pas parce que je ferai plus de. Je ne suis pas bon. On va clôturer là-dessus, on va prier. Ah, mais retenez une chose, c'est que chacun d'entre vous, vous avez un don. Vous en avez un. Et si on regarde tous les dons spirituels, hein, il peut revenir hein, dans ceux de docteur, de pasteur, d'évangéliste. Voilà. Après, il y a le don, parce qu'évangéliste aussi, il faut faire attention. Il y a le don, et puis il y a le commandement que le Seigneur nous a demandé d'annoncer sa parole. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le don d'évangéliste que vous ne devez pas évangéliser. Okay ? Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce don et cette vocation pastorale que je ne dois pas prendre soin des autres. Ok ? Cette vocation, c'est quelque chose de dominant en vous, mais les autres ne doivent pas être absents, sinon ça ne va pas. C'est pour ça qu'on est un seul corps, parce que du coup, on se complète les uns les autres. Bon, mais prions maintenant, sinon on ne va plus s'arrêter. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu ne fais pas de nous des moutons, des gens qui te suivent bêtement sans rien faire. Mais tu nous fais des acteurs de ton amour, des bâtisseurs de ton église. Tu nous appelles, Seigneur, à vivre nos vocations au service des uns et des autres, de tous les chrétiens, pas seulement de notre communauté, mais de tous les chrétiens sur cette planète. Seigneur, continue à révéler tes vocations aux personnes qui ne l'ont pas encore reçue. Aie cette certitude d'avoir reçu une vocation. Édifie cette église de Thiers les Sarrets et aide-nous de jour en jour à former un corps de plus en plus grand, et de ne pas laisser des laissés pour compte à côté. Amen.